Suivant, lieutenant. Alors, à l'attaque.
Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Tactique. Et donc aujourd'hui, ça sera une émission sur l'intersectionnalité. Donc on abordera avec Jawida Seili, que l'on remercie d'avoir accepté l'invitation. Je lui donnerai la parole tout à l'heure pour qu'elle se présente. Alors pourquoi aborder ce terme ? Donc pour essayer de comprendre les différentes comment les différentes dominations se croisent, s'entremêlent. Et surtout pour essayer de comprendre comment, à partir de là, on peut penser l'émancipation, car c'est bien cela qui nous intéresse aujourd'hui. Donc plusieurs points seront abordés. Donc vous essaierez de définir un petit peu ce terme-là qui quelquefois reste un petit peu obscur. On fera un bref point sur l'histoire de ce courant et de ces recherches-là. Et surtout, ce qui nous intéresse, donc, c'est l'ensemble des débats que ça suscite, donc sur le féminisme, sur la racialisation ou pas des conflits, sur la question du communautarisme et sur donc la question de la décolonialité. Mais avant toute chose, donc, je vous laisse vous présenter.
Bien. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous et grand merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Jawida Seili, je suis professeure des universités à l'URCA, spécialisée dans un premier temps sur les questions de travail avec une ouverture genre et puis assez rapidement sur les questions justement d'intersectionnalité qui viennent croiser à la fois ma propre posture située, mon histoire, mon cheminement, mes enseignements et mes recherches.
Pour étoffer l'équipe d'attaque aujourd'hui, j'ai pensé inviter Yohani, parce que j'étais à la conférence, l'opus 3 de son cycle de conférences sur la décolonialité, voilà, merci, excuse-moi. Et au cours de cette conférence, je me suis dit, en fait, ça colle exactement avec le sujet qu'on allait traiter aujourd'hui. Donc, merci, Yohani, d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous. Et juste, moi, je ne suis pas du tout universitaire. Je pars vraiment d'un point de vue situé dans l'expertise de terrain, en fait, qui est le fait de tout simplement vivre dans ce monde et d'avoir de par qui je suis, femme et autres, une expertise de terrain, quoi, un vécu qui fait que il est légitime et en tout cas il s'oppose pas à l'universitaire, au savoir universitaire, au contraire il le complète, voilà.
Donc le premier thème, ça s'intitule comme ça, donc de quoi l'intersectionnalité est-elle le nom ? Donc d'une manière générale, mais je vais faire bref, on peut définir l'intersectionnalité comme un entremêlement des différentes dominations, donc domination de genre, donc dont le nom est le sexisme et le patriarcat, domination de couleur de peau, racialisation, racisme, de classe, exploitation et domination, d'orientation sexuelle, c'est donc l'homophobie, la transphobie, et de handicap, c'est donc le validisme. Donc si l'on comprend bien que ces différentes dominations peuvent s'entremêler. Bon, peut-être que vous auriez quelques précisions à nous apporter sur ce terme-là. Est-ce que chaque cas est un cas particulier ? Est-ce que vous pouvez donner des exemples précis des cas que vous avez déjà étudiés ?
Alors, l'intersectionnalité, c'est effectivement un terme qui apparaît dans le champ de la recherche depuis en réalité plusieurs décennies, mais qui du point de vue du vécu des personnes, il n'y avait pas le terme, mais le vécu existait, la posture existait. L'intersectionnalité, c'est la prise en compte de différents rapports de domination, comme il a été dit. Il y a l'âge aussi, en ce moment on travaille beaucoup sur la question de l'âgisme, c'est la prise en compte de différents rapports de domination qui peuvent être vécus par une personne. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on va partir de la personne, et puis finalement cette personne, c'est une femme, un homme, un genre particulier ou autre, c'est un âge, c'est une couleur de peau, c'est une personne valide ou considérée comme handicapée, etc. Et en fait, pour le coup, ça en fait particulièrement une personne particulière. Et c'est pour ça que l'intersectionnalité, c'est intéressant, parce que faut pas l'envisager, me semble-t-il, comme, et ça je rejoins complètement des travaux qui ont été faits par Mazouz, c'est pas une addition. En fait, voilà, faut vraiment pas le considérer comme une addition de rapports de domination, mais c'est ces rapports de domination qui sont vécus par une personne qui en font finalement une situation d'inégalité ou de discrimination particulière.
On peut rapprocher ça à un système complexe où la somme des, comment dire, la somme des, comment je pourrais dire,
la somme fait
est plus grande.
Ouais, la somme en fait une partie.
C'est ça.
Voilà. Et oui, c'est exactement ça. C'est la somme qui en fait qu'une partie. Oui. Donc, c'est vraiment pas considéré comme, on va traiter, parce que souvent c'est ramené à ça, l'intersectionnalité. Oui. Une femme noire, une femme handicapée, une femme âgée, etc. Et puis elle cumule.
On traite tous séparément, on additionne, alors que ça n'a rien à voir.
Hein. Il y a une addition qui se fait, mais en réalité, faut vraiment, c'est ça la dimension abstraite de l'intersectionnalité, c'est de se dire, on va pas continuer à catégoriser, mais se dire que cette personne qui va cumuler un certain nombre de critères qui font qu'elle est en domination ou pas, elle vit un cas particulier. Il y a un ouvrage excellent de Bell Hooks où elle introduit justement son propos pour expliquer ce que c'est que l'intersectionnalité. Elle part d'elle-même et elle dit je suis une femme, je suis noire, je suis ceci, je suis cela. Et on me demande constamment de me positionner dans une de ces catégories et je ne peux pas être éclatée comme ça. Moi, je vais être la partie, quoi. Voilà, ouais. C'est la somme. Et en fait, c'est la partie, c'est ça, l'intersectionnalité. Et c'est un des problèmes, en fait. C'est pas perçu de toute façon. Mais je reviendrai dessus peut-être après sur l'histoire du terme. C'est pas véritablement perçu comme un tout, pour le coup.
Ah non, puis en plus, on a un système, une société où on aime bien catégoriser les personnes et dont le...
Complètement.
Et c'est plus facile après à attaquer quand on réduit une personne à... un sexe, à une couleur, à un poids, enfin voilà, bref, à quelque chose.
Alors après, c'est à la fois attaquer, mais en même temps parfois défendre, puisque le terme il vient du droit, hein, et c'est une juriste qui l'a mis sur le devant de la scène. C'est le terme pour le coup, le droit est catégorisé. Si on veut être protégé, ça va être le critère qui va être considéré, qui va être celui le plus protégé, sur lequel on va s'arrêter. Si par exemple, je suis en procès avec mon employeur, je suis une femme, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour pouvoir gagner le procès ? Vraiment, ça s'est posé en ces termes. Pour le juriste, on va dire que c'est une femme. Mais si c'est parce que je suis aussi, je prends souvent cet exemple parce que voilà, si je suis aussi une femme noire, où est-ce que je vais, il y a toujours ces types de catégorisations qui sont bien inscrites dans le droit partout et qui font que on peut pas faire d'intersectionnalité parce que la personne en réalité est à la fois une femme noire. Voilà.
C'est un peu l'idée que le tout est supérieur à la somme de ses parties. Alors
c'est complètement ça. Voilà.
C'est en ça que je parlais de système complexe justement.
Ouais, c'est très complexe, mais et c'est en cela que ça, c'est difficilement compréhensible, j'ai envie de dire, parce qu'on a, au niveau du droit, on est organisé de telle manière qu'il faut choisir sa catégorie pour être défendu, là, pour le coup. Hein, pas forcément il y a l'attaque, mais aussi pour être défendu. Et comment on fait avec ça ? Parce que ça n'a pas de sens. Et encore une fois, demander aux personnes, forcer les personnes à vivre un éclatement de soi qui peut pas expliquer une situation finalement de discrimination
qui mutile l'expérience,
voilà, qui agit sur le vécu, sur le ressenti, hein. être envoyé strictement finalement à juste à une position de domination masculine pour les femmes, bah ça suffit pas parfois quand on cumule d'autres rapports de domination dépréciatifs. Et c'est d'autant plus, du coup je prends la parole, mais c'est d'autant plus complexe dans la mesure où y a parfois des situations où on peut cumuler des discriminations et des rapports de domination, mais qui font qu'à d'autres moments, cette même possibilité de cumul va être plutôt valorisante. Et c'est ça qui va être encore plus complexe. C'est, si on s'arrête à juste le cumul, être un homme blanc, d'accord, plutôt jeune, homosexuel, valide, et ben dans certaines situations, c'est bien mieux qu'être une femme blanche, hétérosexuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Mm-hmm. Ça complexifie aussi à ce niveau-là, dans le bon sens du terme, la compréhension des rapports sociaux, en fait.
Mais ça, c'est par rapport à certains groupes sociaux ou c'est par rapport la différence que vous évoquez, là ?
Ça, c'est vraiment par rapport à dans quelle situation on se trouve. C'est une situation de travail, dans quelle entreprise, quelle relation j'ai. Si je suis dans une recherche de logement, à qui j'ai affaire, etc. Tout est dans l'interaction et finalement, sa posture intersectionnelle, elle va être revue à la hausse, à la baisse, en fonction de l'interaction que j'ai avec les autres.
D'accord.
Donc c'est pour ça que c'est un concept très très complexe, mais en même temps qui nous dit ce que sont véritablement, me semble-t-il, les relations sociales.
Oui, et rien que le terme intersectionnalité. Alors si tout le monde a fait des mathématiques, comprend l'intersection, on se rend bien compte que l'intersection, c'est différent que la somme de toutes les parties.
C'est ça.
Donc faut. Et juste pour terminer, par rapport à un terme que vous avez employé, où en fait c'est compliqué de l'imaginer, et donc dans le droit, est-ce que justement il ne se réfugie pas sur le fait, vu que c'est compliqué d'aborder, on l'aborde pas et on continue de traiter toutes les discriminations les unes séparément des autres.
Alors c'est Kimberly Crenshaw, aux États-Unis, donc juriste, qui a elle développé ce concept d'intersectionnalité. Et justement parce que elle avait à défendre des femmes noires et qui disaient mais je suis une femme noire, moi je suis pas l'égale des femmes blanches et en même temps je suis pas l'égale des hommes même s'ils sont noirs comme moi. Enfin comment on peut traiter tout ça. Donc elle développe le concept d'intersectionnalité en montrant qu'au niveau du droit c'est cette catégorisation dans le droit va poser problème. Dépasser cette compréhension, c'est compliqué. En France, on a le défenseur des droits, quand même, qui a tenté de le faire, sans dire que véritablement c'est de l'intersectionnalité, parce que c'est un terme qui est tabou, hein, il faut pas l'utiliser, et notamment en France. Donc, on va inventer des termes. Des facteurs multifactoriels, je me moque à peine, hein, c'est vraiment, j'ai vu des trucs, voilà, des catégories multisituées, enfin là j'invente, mais presque pas, voilà, il faut inventer des termes pour voir comment on peut aborder ces différentes discriminations. De là à dire que ça s'inscrit aujourd'hui dans le droit et qu'on peut être défendu par rapport à différents discrimination qu'on peut subir du fait de certains rapports sociaux tels qu'ils la suprématie blanche par rapport aux autres, on n'en est vraiment pas là, non, on n'en est vraiment pas là, et déjà parce que je pense qu'il y a une incompréhension du concept.
Une méconnaissance, parce que moi quand Jean a proposé cette émission, j'avais jamais entendu ce terme là, donc
ouais, voilà. Déjà. Alors que c'est un terme qui date vraiment, c'est dans les années fin 70 aux États-Unis, que ça émerge dans des groupes de femmes noires, homosexuelles justement, qui se reconnaissent pas dans la bourgeoisie blanche et le féminisme blanc, qui déjà se mobilisent. Et puis après, peut-être que vous avez quand même suivi toute la campagne qu'on a eue ces dernières années, notamment. au niveau des ministères, hein, pour faisant le parallèle entre l'intersectionnalité et l'islamo-gauchisme, donc empêchant de la réflexion, au point que il fallait même peut-être ne pas dire qu'on faisait de l'intersectionnalité.
Donc on va aborder le point de l'histoire, parce que vous avez commencé. Alors j'ai provoqué un peu, parce que en fait, quand on lit très très vite même certaines femmes saint-simoniennes des années 1830, bon, l'intersectionnalité, pour elles, ça existait déjà, parce qu'elles soutenaient qu'on ne pouvait pas émanciper l'ouvrier sans penser l'émancipation de la femme, et qu'on ne pouvait pas émanciper l'ouvrier sans penser l'émancipation des esclaves. Donc c'est pas, donc on peut aussi dire que pour ces militantes là 1830, il y avait aussi une pensée intersectionnelle.
Oui.
Non, de l'intersectionnalité, pardon.
Ouais. Une pensée de l'intersectionnalité, peut-être. En tout cas, elle s'exprimait pas en ces termes, voilà. Après, plus spécifiquement peut-être en France, on a la question d'amalgamer ensemble ou de voir ensemble plusieurs rapports de domination et de considérer que ça peut créer des cas particuliers de dépréciation sociale. Il y a encore des textes plus anciens. Ce qui s'est passé, me semble-t-il, c'est qu'en France, il y a eu une tendance à établir un classement dans les rapports de domination. Je parle en tout cas plus spécifiquement encore pour la recherche, par exemple, hein, en recherche. Voilà, c'est quand j'aime pas des mots, je les prononce mal. On a accordé des priorités à des rapports de domination. Et la question de la classe a prédominé. Donc même si il y a ces postures qui vont se développer, c'est toujours aussi, donc en plus de la complexité dont on a parlé tout à l'heure, il y a à nouveau, c'était un élément supplémentaire pour complexifier les choses, qui va être de dire oui, mais tous les rapports de domination ne sont pas les mêmes. Il y en a qui doivent être prioritaires pour justement parvenir, prendre en compte tous les rapports de domination, mais certains doivent être prioritaires pour parvenir à une émancipation qui permettra d'abolir tous les autres rapports de domination. Et donc, la classe, la question du genre a mis du temps à s'imposer, notamment en France aussi, hein, donc, comme autre rapport de domination, ayant sa place dans le champ de la recherche politique, etc. Et puis après, si vous rajoutez à ça la question raciale, la race, c'est troisième position. Et avec l'intersectionnalité, ce qui joue, me semble-t-il, il est là le problème qui va être posé avec l'intersectionnalité, c'est de dire que l'ordre des priorités, il doit être réfléchi par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend dans quel type d'interaction je me situe, dans qu'est-ce que je vis, dans quelle société je vis, dans quel droit je m'inscris, etc. Donc est-ce qu'on doit avoir toujours ce primat de certains rapports de domination plutôt que d'autres? Et puis la question, et ça, je pense que vous allez bien mieux l'aborder que moi, la question raciale, la question de la race, ça passe pas en France. Ça passe très difficilement. Et l'intersectionnalité, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais moi, il me semble que l'intersectionnalité, c'est ça fondamentalement que ça pose. Hein. C'est la question raciale. Et le terme race est encore... à chaque fois, c'est, on va dire, est-ce qu'on parle de race ou d'ethnie? Est-ce qu'on va parler de race? Est-ce qu'on met des guillemets ou pas? Est-ce qu'il faut... J'assistais à un séminaire dernièrement où une collègue avec qui je m'entends très bien, qui disait le terme race pose problème dans l'histoire en France, etc. Le génocide, Hitler et tralalère. Je me moque pas, hein, mais c'est un peu ces discours qui reviennent et qui font que il faudrait trouver un autre terme que race. J'ai halluciné quand j'ai entendu ça. On a déjà tellement de mal, et ça fait 20 ans qu'on essaye de mettre le terme race en tant que construction sociale. La race, d'un point de vue biologique, évidemment, ça n'existe pas. Ça, on est bien tous d'accord. comme le genre, il nous a permis justement de nous éloigner de cette dimension biologique pour comprendre les relations entre les hommes et les femmes sous la domination et les rapports patriarcaux. Donc voilà, et la race, c'est ça qui fait, à mon sens, fondamentalement problème avec l'intersectionnalité, puisque c'est un des rapports de domination qui va être mis sur le devant de la scène. Alors que, je termine, on parle de racisme, et personne ne remet en question l'idée de racisme. Enfin,
oui, non, mais...
vous comprenez ce que je veux dire. On va pas s'intéresser à ces personnes, parce que de toute façon, on va pas rentrer dans leur discours, hein. Ça va leur servir plus que nous servir à nous, mais personne ne met en doute la question du racisme, mais on ne peut pas parler de race. C'est toujours un peu ce qui m'interpelle. Racisme, mais pas la race.
Je pense que en France, quoi, pour la population française, on a quand même un passé colonial qu'on ne peut pas nier. Et je pense qu'on est peut-être aussi mal à l'aise vis-à-vis de ça. Je pense qu'après, je ne sais pas.
Bah si, qu'est-ce de toute façon, le mot race, il fait peur, clairement. Il a voulu être enlevé de la Constitution française. Voilà quoi, il faut qu'il disparaisse parce que aujourd'hui, un passé serait révolu, en fait. Ce passé, ce passif colonial français, effectivement. Et en fait, il y a une méconnaissance totale et une ignorance peut-être voulue, inconsciente, j'en sais rien. Mais parce que, effectivement, vouloir faire disparaître ce mot, ce que les personnes, du coup, souvent blanches, du coup, ne se rendent pas compte, c'est que, en même temps, du coup, on efface des violences que subissent des personnes, en fait. À chaque fois, le terreau, en fait, est très simple de là où on part. C'est que on parle de violences, de gens, de personnes subissent des violences et meurent aussi, en fait. Enfin, je veux dire, effectivement, comme vous le dites, le racisme, aujourd'hui, tout le monde est à peu près, tout le monde, entre guillemets, d'accord pour dire que ça existe encore. Par contre, le mot race pose problème. On est très mal à l'aise quand on l'entend, on veut pas l'employer, etc. Pour autant, tout ça, enfin, je veux dire, des gens continuent de mourir. Et d'ailleurs, depuis George Floyd, il y a quand même eu beaucoup de choses qui, je pense, se sont passées. Après, dans tout ce que vous dites, je pense que l'intersectionnalité, déjà, merci d'en donner un peu une définition. Parce que, comme très souvent, en France, en tout cas, je pense, ça fait couler de l'encre. Et finalement, personne ne sait vraiment de quoi on parle. Et moi, moi-même, en fait, je suis loin d'être spécialiste de l'intersectionnalité. En tout cas, depuis que j'ai reçu l'invitation d'Attaque, j'y ai un peu réfléchi. Et ce qui m'a un peu sauté aux yeux, même là, quand je vous entends, c'est vraiment la notion d'universalisme, en fait. Je pense que si l'intersectionnalité, déjà en plus, c'est dur à dire, pose autant de problèmes en France, en tout cas, on va se situer en France, c'est que il y a vraiment, ça vient en fait remuer une racine hyper profonde en fait de cet ego européen, français, blanc, et de cette idée vraiment d'universalisme, humanisme, qui ne doit pas être mise en question. Et c'est là où c'est complexe, c'est qu'en fait, dans l'intersectionnalité, même si, du coup, c'est pas le cumul des rapports de domination qui est important, mais c'est le tout, pour en arriver au tout, il va quand même y avoir un processus où des gens vont prendre la parole pour parler de c'est quoi qui cumule, en fait. Donc, voilà, des questions d'identité... Et je pense que le fait même que ces cumuls prennent la parole, enfin ces personnes prennent la parole, en décortiquant qu'est-ce qui cumule justement, eh ben ça pose problème parce que ça fait des voix dissonantes en fait, j'ai l'impression. Ça fait des voix dissonantes à l'ordre établi qui est toujours dans ce récit, dans ce grand conte qui existe depuis des siècles, de cet universalisme de la France, ce pays des Lumières. Et je pense que, du coup, voilà, les voix dissonantes, donc l'intersectionnalité, c'est vraiment compliqué à dire, pose vraiment problème parce que propose d'autres récits, en fait, propose d'autres manières de voir, propose d'autres imaginaires. Et d'ailleurs, je pense que la question de l'imaginaire m'avait aussi directement, m'était directement venue pour cette émission, parce que je pense qu'il faut faire preuve, en fait, d'une grande imagination pour entrer dans le thème de l'intersectionnalité. Voilà, c'est...
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider leurs poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily.
Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily.
Un hôtelier russe crétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs.
Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur.
Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily.
Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents.
Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily,
qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur.
Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poids rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily.
Dans un bateau plein d'émigrés
qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Alors pour rebondir en fait sur, puis on reviendra sur la question de l'universalisme. En fait, c'est vrai que certains marxistes reprochent donc aux recherches intersectionnelles, non, de l'intersectionnalité, donc effectivement de racialiser le conflit de classe. Ouais. Et bon, quelque part, il y a une sorte de vérité peut-être dans ce reproche-là, non ? Il n'y a pas de racialisation de conflit de classe. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que, deuxième question, que le capitalisme lui-même crée effectivement ou racialise, racialise les gens pour mieux les dominer et les exploiter ? Enfin, je me fais avocat du diable.
Je vais vous laisser répondre, mais ouais. Je pense que déjà,
allez-y.
Les mots, c'est important. Et déjà, de quoi on parle quand on dit racialisation, en fait. Et je voulais, je pense.
C'est une autre question en fait.
Ouais, ouais. J'inclus une autre question pour peut-être commencer parce que racialisation, c'est un mot pareil qu'on entend, mais je pense que plein de gens ne comprennent pas en fait racialisation.
Alors la racialisation, c'est. On va rajouter encore un peu plus de complexité parce que ça ramène généralement à la question de la couleur de la peau, souvent à d'autres cultures, ethnies, hein, y a un mélange comme ça. Mais en fait, il y a d'excellentes recherches qui montrent que le processus de racialisation, c'est aussi... on peut parfaitement racialiser, et notamment, je pense aux Irlandais. Il y a des études qui ont été faites, qui sont excellentes et qui montrent comment, finalement, cette population a été racialisée. Racialisation, il faut l'entendre là aussi comme un processus, racialisation. Donc le sion, c'est, il y a un processus qui consiste en fait à hiérarchiser différentes races, mais entendre la race comme un construit social. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est entendre la race comme finalement qu'est-ce qu'on va mettre comme élément qui va venir discréditer par rapport à une autre race qu'on considère comme supérieure. Les Juifs, par exemple, hein, ça a été, y a eu tout un processus de racialisation à leur encontre, avec des illustrations les montrant comme étant des rats ou ce genre de choses. C'est ça un processus de racialisation en fait. Hein. Faut vraiment aller au-delà de strictement une autre culture, une autre couleur de peau, quoique, en même temps, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est quand même les personnes qui ont une couleur de peau noire ou encore des personnes dites arabes, etc., qui subissent le plus de racisme. Donc voilà, le processus de racialisation, c'est un processus de hiérarchisation entre des personnes auxquelles on va attribuer des critères de dévalorisation, en fait. Sachant que, pour ce qui concerne le haut de la hiérarchisation, c'est en général ce qu'on appelle, en fait, la race blanche. Hein, c'est, il vaut mieux être blanc, c'est plutôt blanc pour pouvoir être en haut de blanc, homme, bonne santé, etc., hein, pour pouvoir être en haut de cette hiérarchisation. Donc voilà, processus de racialisation, moi je l'entends vraiment comme un processus de catégorisation au-delà.
Et qui est mouvant dans le temps et l'espace, ça
qui
me semble
est mouvant dans le temps, hyper important, etc. Voilà.
Ça peut qu'à un moment donné, c'était les Irlandais, effectivement, voilà, qui étaient racialisés.
Ouais, peut-être encore un peu pour eux, hein, ils peuvent se sentir racialisés par rapport à d'autres. Voilà, voyez. Et puis, il y a cette question, les accents. L'accent qu'on va utiliser, ça peut être un élément dépréciateur qu'on va et ça peut être un accent d'un langage vernaculaire dans une cité, bah tout de suite on va considérer que ça appartient à une autre race. Et c'est pour ça que la race, faut vraiment l'entendre comme moi je trouve que c'est ce qu'a apporté le genre, quoi, vraiment genre, et ben c'est ce qui a permis de sortir de une vision binaire homme-femme et d'envisager que il y a que le genre, hein, permet de prendre en compte des assignations de sexe, plus généralement ne pas prendre en compte des orientations sexuelles, de certains types de sexualité, etc. Je trouve que pour moi, la race, ça sert à ça, en termes de réflexion aussi. Vous parliez d'imaginaire, moi ça a fait exploser mon imaginaire. Ça a permis de déconstruire plein de visions qu'on peut avoir du monde, mais qui me paraissent assez basiques. Sur, après, l'ancrage de l'universalisme, je rappelle que c'est pas si vieux quand même. Hein. Moi, j'entends souvent parler de l'universalisme comme dans un ancrage de l'histoire de France. Il me semble, hein, après, on est là ouvert, c'est bien la philosophie des Lumières. Moi, je trouve pas que dans l'histoire du monde, c'est vieux, quoi. C'est, voilà. C'est, et puis, encore une fois, ça s'est construit et pensé alors même que les colonisations étaient déjà, s'étaient déjà produites, faites en même temps que, voilà. Donc, l'universalisme, c'est quand même quelque chose à réfléchir en soi. Oui, ça vient bousculer cette notion, mais quand on ne sait pas trop ce que ça veut dire dans son vécu, à quoi ça rapporte, et dans son vécu plus ancien, puisqu'on est aussi sur la question des colonisations, jusqu'à l'idée de décolonisation, c'est encore plus vieux. Qu'est-ce que ça vient faire, ce truc relativement récent, je provoque. Hein. Mais quand même, moi, ça m'interpelle. On a trois valeurs, j'aime beaucoup le dire à mes étudiants dans la Constitution française, qui sont les valeurs de liberté, égalité et fraternité. Fraternité, ça nous vient des Lumières, ça renvoie à l'universalisme. Fraternité, pour moi, ça reste la solidarité entre frères. Où sont les femmes ? Alors que on pourrait dire, non, mais ça comprend les femmes là-dedans aussi. Ben non, c'est fraternité, ça renvoie aux frères. Donc quand on commencera à retravailler aussi même ces valeurs de société dans ce sens-là, on pourra penser à des formes d'émancipation possibles. Alors que ça reste encore constitutif de valeurs, voilà, fraternité. Pour les femmes, on parle de sororité. On aurait pu avoir fraternité et sororité, on aurait pu avoir à la place solidarité, pourquoi pas, ou un autre terme, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste fraternité. Et rien que ça, quand on essaye d'expliquer même aux enfants, je m'intéresse aussi beaucoup à l'éducation, aux enfants ou aux étudiants, pourquoi on a quand même une valeur qui ne renvoie pas à l'égalité ou même à la liberté, c'est compliqué. Et ramener ça à l'universalisme, ça nous dit ce qu'est l'universalisme. Hein. Je pourrais rapporter aux travaux de Réjeanne Sénac, hein, qui montre bien, c'est quand même un universalisme qu'elle appelle des non-frères, qui pose question.
En tout cas, comment on répond à justement ça, à la question de... parce que finalement, la flèche qui est envoyée au discours intersectionnel, c'est mais vous racialisez du coup le discours, vous accentuez le fossé social, justement parler de race, ça accentuerait le racisme, c'est incroyable. Voilà. C'est comme si parler de souffrance animale, ça augmenterait la souffrance animale. Enfin voilà. Et ce qui est dingue en fait, c'est que c'est ça. Là, on parle donc de lumière, des philosophes, etc. J'entendais quelque chose tout à l'heure. Exactement en fait, c'est que des philosophes comme Rousseau, Diderot, etc. L'idée, c'est pas de dire que tout ce qu'ils ont dit, c'est bas et on crache dessus, etc. C'est juste à un moment donné, comment je me positionne quand je lis un ouvrage de ce philosophe-là et que finalement, dans cet ouvrage-là, à côté de plein d'autres idées sans doute lumineuses, il y a des propos racistes, absolument, homophobes,
absolument,
sexistes.
Absolument.
C'est ça, en fait, l'intersectionnalité. Et à l'école, comment... c'est pas possible de faire ça, encore une fois, d'apporter une voix dissonante, de dire, découvert de l'Amérique, 1492, non, en fait, il y avait des personnes qui y habitaient, c'est pas une découverte, en fait, c'est pas, enfin, voilà, comment reformuler des discours qui nourrissent, du coup, les imaginaires et les jeunes, effectivement, là. Et donc, comment on répond à ces attaques de « Ah, mais l'intersectionnalité, vous ne faites qu'attiser finalement les séparatismes, enfin toutes ces... »
Je pense que vous avez super bien répondu. Hein. C'est comme de dire, si on parle des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, ça va exacerber la violence faite aux femmes. Enfin, c'est suffit de répondre ça. Et puis après, j'ai un peu choisi de pas toujours faire fonction pédagogique. Voilà, j'ai pas suffisamment, je vais paraître un peu prétentieuse, mais j'ai pas suffisamment l'occasion et du temps comme là, ça m'est offert, et c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir d'être ici avec vous, Attac. J'ai pas suffisamment l'occasion de discuter de manière, j'ai envie de dire, constructive de ces questions pour aller former des personnes qui vont me renvoyer constamment l'intersectionnalité. Bon, moi, c'est pareil, je prends mon expérience dans des collègues, hein, donc des chercheurs, et une collègue qui m'a dit « Mais pourquoi tu travailles sur la question de race ? Moi, je pourrais jamais, parce que si je travaille... Je suis trop humaniste pour ça. Ah. » Voilà. Voilà, je suis trop humaniste pour ça, et ça m'a fait rire, mais rire, puis j'ai pas répondu, mais après ça m'a mise en colère quand même. Et je me suis dit, ben voilà, c'est renvoyé à ça. On parle de race, donc on est sur un registre de violence, pas d'ouverture, pas d'avancée possible, pas de freiner l'émancipation ou la liberté, etc. Alors que justement, si on met ses lunettes, l'histoire, telle que vous commencez à la raconter aussi, bah, l'histoire, bah, si on met la dimension raciale, elle ne s'écrit pas de la même manière. Et découvrir que finalement, on apprend des histoires qui sont fausses, qui ont été... orienté de manière, on va dire, de manière désorientée, ou je ne sais pas comment le dire pour rester clean, mais voilà, ça permet ça. Et quand on me dit la race, elle vient suppléer la classe ou d'autres rapports de domination, moi je ne l'entends pas parce que c'est faux. Encore une fois, par rapport à la définition que j'en ai donnée, c'est rajouter ce rapport de domination qui a été généralement occulté, oublié, nié, voire édulcoré, voilà. Parce qu'il faut, il faut aussi, à un moment donné, rassembler les troupes, je pense. Il y a cette idée de lier les personnes dans une lutte à partir d'un objectif commun. Personnellement, je ne crois pas que ce soit ce qui fait avancer le monde. Je crois qu'il peut y avoir de multiples luttes, hein, qui ne sont pas forcément dans la contradiction ou dans l'opposition et qui peuvent générer une espèce de, à un moment donné, de mouvement qui pourrait fédérer vers quelque chose sans mettre forcément en priorité un rapport de domination plutôt qu'un autre. Ça, c'est un débat qui a traversé la sociologie avec... Noiriel et Beau, hein. Voilà, c'est un peu ce qu'ils ont reproché, mais ils ont un peu oublié de faire l'épistémologie d'eux-mêmes, hein, comme dirait Nassira Guénif, hein, l'épistémologie d'eux-mêmes, c'est de se regarder, c'est des hommes vieux, blancs, excusez-moi, des hommes vieux, blancs, bien installés dans l'académie, qui ont toujours mis en avant la question... De la classe, et tout d'un coup qui se sentent un peu chamboulés parce qu'on pourrait reprendre, et je le dis particulièrement pour Beau, on pourrait reprendre pas mal de ses recherches pour complètement déconstruire pas mal ses résultats, puisqu'il a oublié de tenir compte d'un certain nombre d'éléments liés justement à la dimension raciale.
Mais donc, pour continuer sur le débat sur l'universalisme, donc, déjà, on sait que sous les Lumières, il y a, tous les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, hein, sur cette notion-là. Certains mettent en avant effectivement qu'il y a du racisme, d'autres pas, etc. Mais en fait, le reproche, moi, je vais me faire encore l'avocat du diable, mais on est là pour ça. Hein. On peut dire qu'effectivement, dans l'intersectionnalité, c'est pas fragmenté, mais on va mettre en valeur différents types de discrimination. Et que ces discriminations-là, en fait, elles risquent bien de questionner au moins l'universalisme, sinon de le détruire, parce que comme vous dites, effectivement, dans la classe, dans la classe sociale, la notion la racialisation de la classe sociale, donc, est un problème en soi, mais il faut bien, pour penser l'émancipation, il faut bien penser à un universel. On ne peut pas faire autrement.
En tout cas, il faut bien dépenser un faux universel.
Ah oui, non, ça, on est d'accord. On est absolument d'accord. Il faut bien dépenser un faux universel. Mais pour penser effectivement une émancipation collective, il faut bien qu'il y ait un horizon commun.
Et bah pour avoir cet horizon commun, il y a un terme... C'est un intersectionnel commun, d'ailleurs, qui est suggéré pour remplacer l'universalisme. Pour pouvoir y parvenir...
Universel, c'est pas ça,
je l'ai quelque part, je vais essayer de le retrouver, mais c'est à nouveau Sarah Mazouz et Léonore Lépinard qui ont proposé ça, plutôt que de parler d'universel ou d'universalisme, qui est à mon sens plus intéressant, leur concept, enfin leur principe, leur mot. Mais je rejoins ce que vous dites. Hein, c'est il faut tant qu'on n'a pas déconstruit le faux universel, et on en est. Vous
pensez qu'on en est loin?
Ah ouais, on en
mais
est loin.
Mais c'est ça en fait, c'est que même oh, ça oui. semble mais évident oui. de dire, mais bien sûr qu'il y a un faux universel, mais je suis pas bien sûr qu'il soit bien perçu ce faux universel parce qu'il a tellement été impensé et pas nommé. Et il est tellement incrusté dans les imaginaires, dans les corps, dans les, enfin absolument partout, que finalement ça semble assez évident. Oui, bien sûr, il y a un faux universel, mais il est où cette, enfin parce que, enfin voilà, c'est pas pour orienter toute la discussion autour de la race, etc. Même si je pense que on n'a pas le choix en fait, parce que c'est fondamental, parce que c'est récent encore que le mot race, on veuille l'enlever de la Constitution française. Et je pense que, enfin, et là voilà, je suis pas spécialiste, mais pour réduire la chose, et on en est encore loin, je pense. Quand je dis réduire la chose, c'est pour pas en parler pendant trop longtemps, mais Il y a plein de penseurs de la négritude, comme Césaire, qui ont été... c'est vieux, en fait, toutes ces histoires, parce que on les critiquait déjà. On leur disait déjà, mais en gros, vous accentuez le fossé social en parlant de noir, de négritude. Moi, il y a encore pas longtemps, il y a une dame, lors du festival antifasciste de Reims, qui me dit qu'employer le mot blanchité, c'est un néologisme et qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit parce que encore une fois on nourrit le fossé social en utilisant des mots comme ça. Et en fait tant que et c'était pas Césaire qui disait ça, mais je sais plus, mais qui disait c'est l'autre monsieur, comment il s'appelle, Soigon.
Fanon.
Non, pas Fanon, c'est pas Fanon, un autre. Bon, tu vois les petits moments qu'il faudra couper, faire gaffe là, parce que t'as l'habitude. Mais qui, tout simplement, en fait, et effectivement, ça semble bateau, mais qui dit que en fait, votre faux universel, on en a marre parce que l'universel que vous avez construit. Eh ben, je n'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie parce que je suis noire et parce qu'en fait, en même temps qu'effectivement vous avez érigé les droits de l'homme et du citoyen, eh ben il y a le code noir en fait qui, je suis un peu nulle moi des fois en histoire, non. Donc mais qui grosso modo est un peu, enfin voilà, et voilà. Donc en fait, cessons deux secondes la mascarade en fait et bref.
Non mais
si je peux me permettre, c'est j'ai complètement dans ce sens, donc c'est il y a eu un excellent documentaire, j'ai pas le titre qui est passé c'était sur les mines, travailleurs des mines et l'appel, les accords bilatéraux qui ont été signés, validés exactement entre notamment la France et le Maroc pour faire venir des hommes marocains. Généalement aussi des pères de famille, hein, pour être sûr qu'ils rentreraient. Et puis, venir travailler dans les mines. Voilà. En même temps, on est dans les années 60-70, un mouvement syndical très, très, très important, qui est structuré, etc. Et il y a plusieurs protagonistes qui parlent et qui disent on était très mal vus par les ouvriers syndiqués. Ils ne voulaient pas de nous, ils nous rejetaient. Un truc assez classique. Et en fait, pourquoi? D'une certaine manière, pourquoi? Eh bien, en fait, eux, ils avaient des contrats de travail de 18 mois. D'accord? Les autres étaient sur place. C'est ça l'universalisme. C'est ça la déconstruction de l'universalisme. À partir du moment où on est dans le même métier, la même profession, les mêmes conditions de travail déplorables, etc., et qu'on a des statuts de travail particuliers, on n'est pas dans l'universalisme, c'est pas possible. Et là, pour les ouvriers marocains, c'était de dire, ben, moi j'étais là pour 18 mois. Moi, quand je rentrais le soir, je n'avais personne. Et tout ce qui m'intéressait, c'était effectivement faire plus d'heures. Travailler, et puis comme ça, en rentrant après 18 mois, j'apportais un petit pactole. Mais ses camarades français ne comprenaient pas au nom de l'universalisme. L'universalisme, le combat syndical, etc. Vous voyez ce que je veux dire?
Je suis d'accord.
Voilà, hein. Moi, oui, mais voilà. Moi, du coup, j'entends cette parole et ce que cet homme dit de son histoire passée, c'est oui, c'est possible. Un combat ensemble pour une émancipation ensemble, à condition qu'on ait tous et toutes le même statut. Et quand on commence à faire de l'analyse, de la recherche, on se rend compte que c'est absolument pas le cas. Les statistiques montrent que les femmes connaissent un taux de chômage plus important que les hommes, à qualification égale, que les personnes handicapées doivent être recrutées sur des quotas, que les personnes racisées vont connaître le plus de discrimination à l'embauche. Et ça ramène à chaque fois sur des statuts, des salaires qui vont être différents, des insertions professionnelles qui vont devoir passer par du stage dans un premier temps et puis par des quotas. Et quand on commence à regarder ça, où est l'universalisme en fait, hein? C'est ça. Quand je disais déconstruire l'universalisme, c'est pas tant le principe, c'est évidemment que c'est beau. Mais voilà.
Ah bah, oui, non mais... Non, non, mais je suis tout à fait d'accord, hein, mais ça me fait penser aux écrits de Rancière sur les ouvriers du 19e siècle. Mmh. En fait, effectivement, il montrait bien que la notion des droits de l'homme et la liberté et l'égalité, donc ce n'était que des écrits, mais en même temps, quand il se battait, c'était bien pour réaliser ces universaux-là.
Ah, là, déjà au pluriel, j'apprécie. Oui. Déjà, voilà, l'utilisation du pluriel est intéressante. C'est universel. Donc peut-être universel. Que pour arriver à un universel, il faut passer par la déconstruction de l'universel existant, parce que c'est du faux. L'expression me paraît très bonne. C'est du faux universel. En passer par l'idée qu'il y a plusieurs universels possibles et que peut-être qu'en construisant, on est dans un processus, hein, on arrivera à un vrai universel, pas un universel qui a été construit
pour les hommes blancs,
pour les hommes blancs, philosophes, avec la naissance de la bourgeoisie et du capitalisme. Enfin, voilà, c'est ça qui est assez paradoxal, quoi. On est quand même aussi d'une certaine... Voilà, avec la création de cette idée d'universalisme, c'est aussi, me semble-t-il, la légitimation du capitalisme, paradoxalement. Paradoxalement, mais c'est ce que ça produit. Et créer l'idée qu'on est tous sur le même bateau à se battre ensemble, c'est bien, mais peut-être que ça calme les foules aussi, j'ai envie de dire.
Et je pense que c'est là toute la... Le problème que pose l'intersectionnalité, en fait, c'est que c'est sortir de cet universalisme blanc, bourgeois, qui a été tellement nourri historiquement. Et puis, quand je pense, on se dit que la route est longue, c'est dans le côté où il y a tellement à rappeler, en fait, j'ai l'impression. Mmh. À rappeler, à renommer, à décortiquer. Parce que, en fait, on a un monstre en face de nous, très bien huilé, très bien organisé depuis des siècles et des siècles. Et du coup, voilà, décortiquer, et rappeler des choses. Je pense que l'éducation populaire a sans doute sa grande place là-dedans, parce que c'est vraiment rappeler tout un historique de ce monde qui, finalement, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, en fait, sur une échelle, si on s'amusait à faire l'échelle d'où il se situe l'universalisme, les Lumières, ce monde moderne, en fait, il représente pas grand-chose, en fait, à l'échelle du monde. Et du coup, voilà, et peut-être encore des questions, parce que...
Mais moi, je pense que c'est la fin de ce monde-là, justement. Parce qu'on est en train de voir beaucoup de pays, alors là c'est économique, mais les mentalités elles vont changer aussi. Là, on est en train de voir beaucoup de pays qui se rallient aux BRICS, les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Le monde occidental, il vit ses dernières heures. Quoi, ses dernières heures, c'est un bien grand mot, mais le blanc fier de l'être et qui veut écraser tout le monde, quoi, c'est bientôt mort pour lui, quoi. Je pense que...
Moi, je pense quand même qu'avant que ça soit mort pour lui, ça passera par un processus où il va se nommer et se regarder en face. Et pour moi, là, on n'y est pas encore, en fait. Je le vois dans mon quotidien, comment... Il y a une sociologue comme ça, Robin DiAngelo, elle est américaine, elle a écrit La fragilité blanche, où en fait, elle décortique le principe même de la blanchité, en fait, c'est de ne pas savoir qu'on l'est. Mm. Tu es blanche, je suis blanche, il est blanc, il le sait pas. Parce que ça a été... C'est, le fait de ne pas nommer, c'est parfait pour perpétuer finalement un ordre...
Il n'y a pas la prise de conscience d'une différence, quoi. On a l'impression que... Quoi,
rien que dans, effectivement, le phénomène de racialisation dont on a parlé tout à l'heure, souvent, le blanc, la blanche, s'en extrait. Ils se sentent pas faire partie de ça. Pour eux, c'est toujours
ils
l'autre
qui... Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'écris rien que pour toi. Le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
Moi, ce que j'ai compris, en fait...
Pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut
non,
tenter...
Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
Eh oui. Eh ben oui, ok. Mmh.
D'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
Ouais, très bien, voilà. Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui. Mais c'est super.
Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien.
Oui, des petites remarques, toujours.
Quoi? T'as un problème?
Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas de les écouter.
Ah, écoutez, moi, j'écoute pas les femmes, moi, j'écoute pas les femmes.
Il me semblait.
On voit tous que t'as aucune sensibilité.
Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez...
Oh, tais-toi.
Ta gueule.
Pourquoi?
Elle intervient au milieu du... Tout hystérique, là. C'est fou de faire ça.
Très désagréable.
On parlait du désir. Allez, c'est okay. Con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui nous coupe, hein, coupeuse.
Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
Balance ton quoi. ton quoi.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait, c'est non.